France Musique.
France Musique.
Dominique Jameux nous a quittés le 2 juillet. Cette rediffusion est un hommage à la sensibilité et à l'intelligence d'un homme rare qui nous manquera. Prima la musica.
Par Stéphane Goldet.
Bonjour, notre émission vous propose d'illustrer un livre vraiment original sur un sujet qu'on aurait pu croire rebattu avant ce livre. C'est Chopin ou la fureur de soi de Dominique Jameux. Je suis sûre que certains d'entre vous en ont déjà commencé la lecture. Les paroles que vous entendrez au cours de cette émission sont, on va dire, à 95% les siennes, les choix d'interprètes, les siens et les nôtres. Le programme d'aujourd'hui, une mazurka et une polonaise sous les doigts de Vladimir Horowitz, quelques études de l'opus 25 sous les doigts d'Akiko Ebi, et puis la quatrième ballade sous les doigts de Thierry de Brunhoff, et un nocturne pour finir par Marie-Joie Pirèche. Pour commencer, la mazurka opus 30 numéro 4, la mazurka, le miroir de la fidélité de Chopin, on peut dire, enregistrée par Horowitz le 28 décembre 1949. C'est la mazurka opus 30 numéro 4.
Thank you.
Chopin, Mazurka opus 30, numéro 4, Vladimir Horowitz, le 28 décembre 1949. Autrement dit, un 78 tours, d'abord consciencieusement repiqué en 33, et que vous venez d'entendre en CD, bien sûr. Le livre de Dominique Jameux est un parcours, on ne le dira jamais assez, d'une originalité et je trouve d'un humour fracassant sur la vie et l'œuvre de Chopin. Et puis il y a un chapitre, un dernier petit chapitre qui s'appelle « Sept pianistes » qui sélectionne de manière évidemment ultra personnelle, c'est la signature de ce livre, « Sept pianistes », quoi qu'il en ait nommé beaucoup plus, notre ami Dominique Jameux. Mais il cite Horowitz comme étant venu à lui par son professeur de piano à Clermont-Ferrand, un certain Jean Denry, à qui il voue une très jolie affection, comme moi, Françoise Dupré, d'ailleurs. Alors, ce Jean Denry lui a un jour parlé d'un certain Horowitz, R-O-V-I-T-Z, on va dire, jusqu'au jour où Dominique Jameux a grandi et a découvert Vladimir Horowitz. Et voici ce qu'il écrit de Vladimir Horowitz. « Le Chopin d'Horowitz, écrit Dominique Jameux, est un Chopin tourmenté, presque névrotique, mais impérial et conduit. » Rien de Chopin ne lui est étranger. Il est à l'aise dans l'œuvre de vastes dimensions et violentes, les polonaises, les scherzos, comme dans les miniatures, les mazurkas. Il laisse plusieurs enregistrements de la même œuvre, rien que sept de la première ballade, entre 1947 et 1985. Assiduité où l'on peut voir, au choix, la facilité du virtuose, l'insatisfaction de l'artiste ou la compulsion du perfectionniste, ce qui l'amènerait de toute façon au plus près de Chopin. Voici la polonaise opus 44 de Chopin dans le fameux concert enregistré par la télévision qu'a donné Horowitz en 1968. Il avait alors 65 ans.
Thank you.
On se dit qu'Horwitz a dû être un cavalier toute sa vie pour savoir jouer cette polonaise avec une telle force d'évocation poétique. C'était la polonaise opus 44 de Frédéric Chopin, jouée par Horwitz dans un concert qui a été télévisé en 1968 et dont il existe d'ailleurs une version en DVD dans je ne sais plus quelle édition Sony, des gros coffrets Horwitz qu'on peut trouver actuellement sur le marché. C'est très intéressant ce filmage d'Horwitz parce qu'on voit un homme qui a une tenue au piano qui est assez extravagante, qui est très collée au piano, le buste légèrement penché en avant, et qui va jouer cette pièce ultra virtuose avec une impassibilité totale de figure, ce masque un peu qu'il a de clown russe, enfin la Popov avec son éternel nœud papillon, un peu penché en avant, et le buste ne va pas bouger, le visage ne va pas bouger, les longs doigts à peine plus sur le piano, et voilà ce qu'on entend. C'était donc cette polonaise qui ouvrait notre quatrième émission déjà consacrée au livre de Dominique Jameux, Chopin ou la fureur du soi, et nous poursuivons avec un bouquet d'études de l'opus 25. Dominique Jameux rappelle que les études n'ont jamais été pensées par Chopin, ni les préludes d'ailleurs, pour être jouées comme on le fait aujourd'hui, de manière comme un bloc. Donc je vous en propose un petit bouquet comme ça, et pour commencer les trois premières, qui s'ouvrent, le mot est Schumann, par une ample ondulation de l'accord. Je vous propose ces études, toutes celles que nous entendrons au cours de cette émission, sous les doigts de la si noble Akiko Ebi. Thank you. Les trois premières études de l'opus 25 de Frédéric Chopin sous les doigts d'Akiko Ebi. Ce second cahier d'études, écrit Dominique Jameux, plus que le premier, est propice à l'anecdote, au sous-titrage, voire au sobriquet, comme s'il s'agissait de dissimuler aux belles écouteuses, qui à l'occasion peuvent être d'avenantes élèves, leurs arides difficultés. Ainsi a-t-on le Cabri, c'est celle que vous venez d'entendre. Hein. Bon titre, hein, le Cabri. Où l'interprète sera bien avisé de choisir son tempo en fonction des triples croches qui l'attendent à la fin et non des doubles qu'il accueille au début de l'étude, sous peine de donner la pénible impression d'ahanner lorsque les triples croches lui arriveront sous les doigts. Ne manque pas l'humour avec lequel Chopin prononce ses leçons auprès du Debussy, futur auteur du premier livre d'études, scande son recueil de trois études d'intervalle, vous allez les entendre tout de suite. La numéro 6, en tierce, à la Clémenti, la numéro 8, en sixte, à la Hummel, et la numéro 10, en octave, digne de Liszt. C'est rare, les octaves, chez Chopin. C'est pont aux ânes, comme écrit Dominique Jameux, du mécanisme scolaire, dont Chopin fait naturellement chaque fois des propositions poétiques. Akiko Ebi, toujours, pour ses trois études, les tierces, les sixtes et les octaves.
Thank you.
Chopin ou la fureur de soi. Sous les doigts d'Akiko Ebi, c'était la 10e étude de l'opus 25 de Frédéric Chopin à l'instant, précédée de la 8e et de la 6e. Et voici maintenant un dernier extrait de ce recueil d'études, la 7e, le grand récitatif bouleversant de piano-violoncelle. Et Dominique Jamouille écrit ce mot en un seul mot, enfin s'écrit ces deux mots en un seul mot, le grand récitatif bouleversant de piano-violoncelle que Chopin jouera souvent.
Thank you.
plus grande étude de l'opus 25, la septième, sous les doigts de Frédéric Chopin, bien sûr, sous les doigts d'Akiko Ebi. Je voudrais vous signaler qu'il y a dans les notes du traducteur de notre ami Philippe Cassard du 9 novembre, dans l'émission où Philippe Cassard rendait hommage à Thierry de Brunhoff, il y a une magnifique interprétation de cette étude sous les doigts d'Hüseyin Sermet, le pianiste turc qui a été le dernier grand élève de Thierry de Brunhoff, que nous allons maintenant entendre dans la quatrième ballade de Chopin. Non sans que je vous ai lu quelques pages de Dominique Jameux, parce que vraiment, la quatrième ballade, c'est le chef-d'œuvre de Chopin, mais c'est aussi un petit peu dans ce livre, et il y a une magnifique assonance, évidemment, entre l'auteur et son sujet. Je trouve que ce qu'il écrit sur la quatrième ballade constitue un peu le cœur de ce livre, et sans doute les quatre plus belles pages qu'il a écrites sur la musique depuis longtemps. Voici comment il commence. « Au moment d'ouvrir ces lignes, écrit l'auteur, et là c'est en italique, un tremblement me saisit. Effroi de qui s'apprête au sacrilège, trac d'oser évoquer ce qui est peut-être le chef-d'œuvre de Chopin, partant un des plus hauts lieux de toute la musique. » Peur de s'affronter à une œuvre où rien n'est simple, et sur laquelle les commentateurs ont déjà tant écrit. Car cette œuvre aboutie, fleur magnifique d'une écriture pour l'instrument et d'une inspiration que l'instrument à la fois dicte et à laquelle il se soumet, me paraît proposer l'exemple rare d'un compositeur qui ne sait où aller et fait de ce désarroi le moteur même de sa progression. Désarroi fictif, bien sûr, fictif. Nous savons que cet improvisateur méticuleux a tout voulu, correction selon correction, désarroi entièrement joué, ou plutôt mise en scène. Fin des italiques. Le rideau se lève sur une aube cotonneuse, d'où le narrateur paraît s'éveiller difficilement d'un rêve indécis. Ni cauchemar vraiment, ni rêve pimpant, certes. Ses idées sont brouillées. Comme on chausse avidement ses lunettes, il se saisit de ce qu'on a toujours sur la main, sous la main, le do majeur, des lambeaux de rêve en do majeur, le prosaïque allié au magique, la quatrième ballade de Frédéric Chopin sous les doigts de Thierry de Brunhoff. La quatrième ballade de Frédéric Chopin sous les doigts de Thierry de Brunhoff. Il l'a enregistrée en 1963. Il avait 29 ans. Voici la façon dont Dominique Jameux décrit ce que vous venez d'entendre, là, la coda. Trois pages d'enfer. Trois pages furibondes où Chopin délaisse tout faux semblant, tout échappé vers le salon, toute ingéniosité contrapuntique, tout truc pour meubler, toute incertitude quant au point vers lequel il se précipite, qui est abîme, gouffre et panique. La fureur de soi à l'état pur. Chopin avait 26 ans et Marie-Joie Pirèche à peu près le double quand elle a enregistré, il y a 20 ans, le beau nocturne en ré bémol majeur, opus 27 numéro 2, que voici.
Thank you.
C'est la musique qui commande ici le récit des événements, cette musique intime qui parle à l'oreille, où tout est beau et tout est court. Ce sont des lignes extraites du quatrième de couverture du livre que nous illustrons, Chopin ou la fureur de soi de Dominique Jameux. Ce que vous venez d'entendre, c'est le nocturne opus 27, numéro 2, en ré bémol majeur, sous les doigts de Marie-Joie Pirèche.
France Musique.